Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie, comment ça va?
Ben ça va bien, vous aussi?
Ben oui, ça va, écoutez.
Oui, bon.
Les jours se ressemblent, et voilà. Quoi.
Bah oui, oui, écoutez, c'est là, donc jusqu'au 11 mai, on en reparlera évidemment, à 11h de cette annonce du 11 mai qui a été faite par le président de la République. On aura Marina Carrère-Dancos avec nous tout à l'heure pour parler d'une émission spéciale, puis d'une manière générale, comment, quand on est médecin et qu'on présente des émissions autour de la santé, on aborde la question du coronavirus. On parlera du retour à l'école le 11 mai, point d'interrogation pour nos enfants. Moi, j'ai fait un petit tour autour de moi de parents qui n'ont pas du tout l'intention de renvoyer leurs enfants à l'école le 11 mai. Et puis Jean Dorido, qui est psychologue, docteur en psychologie, qui va nous donner peut-être quelques conseils pour supporter un mois de plus de confinement. Alors, le président de la République s'est exprimé hier. Rémi Pernelet vous l'a dit tout à l'heure. 34 millions de personnes, 87% de part d'audience. Ça veut dire que près de 9 Français sur 10 qui étaient devant la télévision ont regardé l'intervention du président de la République sur les chaînes, 7 chaînes généralistes qui le diffusaient. 14 627 000 très exactement sur TF1, 11 068 000 sur France 2 et il faudra ajouter évidemment les chaînes d'info. On va certainement dépasser les 37 millions de téléspectateurs. C'est le nouveau record d'audience historique de la télévision, tout genre confondu. C'est ce que me signale Rémi Pernelet. La précédente intervention le 16 mars avait réuni 35 300 000 personnes au total. C'est effectivement, il y avait une attente très forte et on va voir si vous avez été convaincu hier par le président de la République. Alors, qu'y avait-il à la télévision hier soir? Les bracelets rouges sont arrivés en tête avec 5 763 000 téléspectateurs. C'est 250 000 de plus que la semaine dernière. Ça fonctionne toujours très bien.
C'est moins que Macron. Ouais.
C'est moins que Macron, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, qu'avez-vous regardé hier? Je crois qu'on a Eric avec nous en ligne. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous allez bien?
Oui, je vais autant qu'un Français peut aller bien après 45 jours de vie sous un bocal bien fermé. C'est pas très facile.
C'est long,
mais,
hein.
Non, moi je suis un grand lecteur, j'écris, alors en général j'ai pas de tendance à ne pas sortir, mais on se gave d'opéra en ce moment, voilà, mon amie et moi,
c'est bien.
Je l'ai initiée à l'opéra, elle me donne ce qu'elle est, bon bref, c'est magique, et pour le reste, c'est
hier...
Wim Wenders.
Paris-Texas, hier soir sur France 5.
Oui, c'est un cinéaste que je suivrais de Paris à New York sur les genoux, enfin en nageant.
Mais vous l'aviez déjà vu, j'imagine, non?
Oui, je l'avais vu une fois, mais c'est quelqu'un que j'avais entendu sur sa carrière. C'est un fils de médecin qui adore, qui a passé une partie de sa vie à la Cinémathèque, est parti à New York, fait des trucs. Chaque plan, Valérie Expert, plan était une merveille. Tomber par terre. Alors déjà qu'on tient pas beaucoup de bouffe, vous imaginez le nombre de bleus que je me suis fait. Non mais c'est magique. C'est magique, vraiment.
Bon,
vu ce qu'il y a à côté.
Il y a le choix. Il y a le choix. Vous avez de quoi regarder. Il y avait aussi L'Armée des Ombres, formidable film de Jean-Pierre Melville, 2 863 000 téléspectateurs. En tout cas, merci Eric de nous avoir appelé, de nous avoir fait partager votre enthousiasme pour Paris-Texas, qui est effectivement un très, très grand film de Wim Wenders. De Funès, ça marche toujours. C'était sur M6 hier, 2 863 000 téléspectateurs. C'est moins que Le Gendarme se marie, mais ça marche toujours très bien. Et puis Meurtre au paradis, 4 824 000 téléspectateurs, la série de France 2 qui marche là aussi plutôt très très bien. On passe aux appels.
Je vais vous faire ce que vous fait Rémi Pernelet de temps en temps. Ouais. Vous n'avez pas le score de Wim Wenders sur Arte alors?
Ben si, je l'ai donné, si vous écoutiez, Rémi, vous aurez répondu. Je l'ai peut-être pas dit. 863 000 téléspectateurs, 3,2% de part d'audience. C'est plutôt un bon score, voilà. Alors, le zapping?
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Évidemment, l'info de la journée d'hier, évidemment, c'est la date la plus importante. J'espère que vous l'avez marqué dans votre agenda 2020, Valérie.
Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai.
Allez, 11 mai 2020, peut-être dans quelques années, ça sera férié, hein, le jour de la libération. Oui. Rendez-vous
enfin, juste ce matin, Christophe Castaner a dit le déconfinement le 11 mai, ce n'est pas une certitude, mais un objectif. Donc voilà.
C'est pas gagné.
Pardon. Non.
On verra dans 27 jours. Après le discours évidemment d'Emmanuel Macron, une des polémiques est venue. Ce sont les tests qui donc ont été dit. Macron a dit que ça serait que sur les personnes présentant des symptômes. Hier, après l'allocution du président Olivier Véran, le ministre de la Santé est revenu sur ce sujet sur BFM.
Nous devrons envisager des tests évidemment avec les hôpitaux, avec les laboratoires, mais également nous appuyer sur des équipes mobiles, des drive tests, mais également les pharmacies et encore bien d'autres structures qui seront nécessaires. Et grâce à ces tests, tout malade diagnostiqué pourra être isolé et nous pourrons ainsi casser les chaînes de transmission du virus. Dépister quelqu'un un jour donné qui ne présente pas de symptômes, qui n'a pas été qu'à contact d'une personne malade, comme ça au hasard, ne dit rien de sa capacité à être malade le lendemain.
J'imagine que vous reviendrez sur ce débat tout à l'heure à 11h. Toujours sur BFM, juste après la diffusion du discours présidentiel, les infirmiers et les infirmières ont réagi à chaud.
C'est important d'entendre l'État dire que oui, en effet, on manque, on a besoin de plus de matériel. Les infirmières, elles sont en grève depuis déjà plusieurs mois. Et là, on se retrouve dans une crise sanitaire importante, avec un manque de matériel, avec un manque de personnel.
Il y a une reconnaissance, au moins, que le personnel de santé n'est pas très bien traité. Maintenant, est-ce que par la suite, ça va changer les choses? Ça, l'avenir nous le dira.
Autre réaction plus politique, celle-là, c'était dans Quotidien sur TMC, Natacha Polony, qui a retenu dans le discours de Emmanuel Macron le retour de l'industrialisation française.
La seule chose qu'on peut dire pour l'instant, premièrement, l'Allemagne avait des tests et des respirateurs parce qu'elle a conservé son industrie. Et ça, je pense que c'est majeur. C'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron nous a parlé de l'indépendance de la production. En effet, la réindustrialisation, c'est quelque chose d'essentiel.
Un témoignage poignant sur France 3, celui de Daniel Desprez, c'est un habitant normand, et ce retraité a bien cru qu'avec le coronavirus, sa dernière heure était venue.
La douleur de brûlure que l'on sent, qui est très intense, et c'est ça qui est terrible, c'est que on nous donne du doliprane, il n'y a que ça. Ça dure un temps, 3 heures et demie, alors qu'on ne peut en prendre que tous les 8 heures. Quoi. C'était très très violent, oui. Très très violent à tel point qu'à un moment donné, je disais, ça y est, c'est fini, quoi. Je vais arrêter.
Allez, un petit peu de musique. Vous savez que durant toute cette période, il y a beaucoup de créativité sur les réseaux sociaux. Et nous allons peut-être retourner travailler. Alors, vous connaissez Valérie Antisociale de Trust ?
Oui.
Cette chanson, eh ben, je vous propose Antiviral.
Tu ne peux travailler qu'avec ton animal. Impossible de poursuivre ta vie sentimentale. Il te faudrait faire du sport pour pas que tu grossisses. Impossible de sortir sans voir la police. Antiviral, tu restes chez toi. Tes stocks de potes, tes toilettes, ça pourrisse.
C'est super bien fait. Hein.
Ça réveille le matin.
C'est vraiment bien fait, ça réveille. Alors je savais que vous préfériez un petit peu de douceur, comme notre auditeur de tout à l'heure. Vous allez voir un dernier son de Pâques, celui d'Andrea Bocelli. Je ne sais pas si vous avez vu l'image de lui seul dans la cathédrale de Rome, où il chante un Ave Maria.
Voilà,
je
crois que c'était au Duomo de Milan, hein, c'était pas à Rome. Mais
ah oui, vous avez raison.
Voilà, c'était au Duomo de Milan. Parce que la cathédrale de Rome, ça veut pas dire grand chose, donc j'ai vérifié.
Non, c'est vrai.
Voilà.
C'était, voilà.
Allez, on est en ligne avec Marina Carrard-Ancos. Bonjour Marina Carrard-Ancos.
Bonjour Valérie.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci. Vous aussi, j'espère, et tous vos auditeurs aussi. Hein.
Oui, bah écoutez, on essaye, on va voir, vous allez nous raconter un petit peu comment on fait pour préparer, présenter une émission quotidienne comme le magazine de la santé en période de confinement. Et puis ce soir, on va évidemment parler de ce magazine de la santé spécial coronavirus avec un document exceptionnel en immersion au CHU du Mans. On va en parler dans un instant. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe pour vos équipes et comment vous vous êtes adapté au magazine de la santé pour faire votre émission.
Ben, on s'est adapté déjà en confinant un maximum de journalistes. Donc la plupart de nos journalistes sont en télétravail et font des Skype avec nous. On n'a plus de chroniqueurs en plateau, plus d'invités en plateau, sauf le soir pour les primes. Et comme je suis toute seule maintenant également sans co-présentateur, du coup il y a moins de cadreurs en plateau. Donc la majorité des gens sont vraiment protégés, c'était important pour nous. Voilà, donc déjà c'est un peu compliqué parce que tout se passe par télétravail. Mais écoutez, avec une équipe qui est quand même assez exceptionnelle et qui bosse remarquablement, on arrive à faire une heure et demie, enfin une heure de direct sur le coronavirus et puis une demi-heure de documents après.
Bon, alors qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Racontez-nous un petit peu. Vous avez pu aller filmer quelques jours au CHU du Mans.
Oui, absolument. Réanimation, dans un service donc de réanimation. Une de nos équipes est partie en immersion là-bas avec un maximum de précautions, vous l'imaginez bien. Actuellement, ils sont d'ailleurs au confinement, ces journalistes ne sont qui ont ensuite monté les sujets pour, là encore, toute la précaution nécessaire. Donc, ils ont tourné. On a des témoignages vraiment très d'abord de la technique, de la réanimation, comprendre ce que c'est que ce virus et ce qu'il provoque. Et puis, des témoignages de patients qui étaient conscients, réveillés, qu'on aura pour certains en ligne ce soir après, puisqu'ils sont pour certains rentrés chez eux. Mais des témoignages qui sont extrêmement forts, extrêmement intéressants, sensibles. Et puis, des soignants qui sont franchement admirables. Ils ne se rendent même pas compte, je crois, mais ils sont exceptionnels. Ouais. Et c'est vraiment un document en immersion, donc c'est vrai, c'est très 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 intéressant ce qu'on a pu tourner.
Moi je voulais savoir, Marina, moi je voulais savoir, Marina, c'est est-ce que finalement les médecins nous disent tout, c'est-à-dire qu'on découvre à fur et à mesure la viralité de ce virus, mais est-ce que finalement ils nous disent tout ou vous avez peur parfois d'être trop anxiogène? Est-ce que vous vous censurez vous-même?
Non, on se censure pas, mais en revanche, jamais on parlerait de quelque chose qui n'est pas parfaitement vérifié. Et si jamais ça devait être une information anxiogène, elle est décryptée dans la foulée, c'est-à-dire qu'on ne balance pas comme ça une information qui peut inquiéter. Donc on fait de l'information pure, hein, vraiment, et je pense qu'à partir du moment où on informe sans rien cacher, sans exagérer, avec uniquement, c'est pas moi qui informe, hein, c'est les experts qui nous disent en permanence les choses sur le plateau, à partir du moment où on informe de manière très très honnête, je pense qu'on n'est pas anxiogène, je pense qu'on décrypte quelque chose que les gens veulent absolument comprendre.
Ouais, comment est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la date du 11 mai en termes de déconfinement? Vous étiez exprimé hier ou avant-hier sur la nécessité d'un confinement encore plus long. Est-ce que ça vous semble raisonnable?
Ah, moi, ça me paraît tout à fait raisonnable de confiner encore un mois. Ça fera ouais. 8 semaines. C'est vrai qu'on pensait plutôt au départ 6 semaines. Bon, on est un peu plus long, mais c'est vrai que le plateau pour l'instant ne descend pas. On a un plateau de patients, mais pour l'instant qui ne descend pas. C'est vrai que les chiffres sont plutôt vers quelque chose de positif parce qu'il y a moins de patients qui rentrent en réanimation. Et ça, c'est vraiment lié au confinement. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument le maintenir. Et c'est vrai que maintenir encore 4 semaines, ça permettrait de voir le pic, ce plateau descendre et les services de réanimation se vider pour éventuellement, si jamais une nouvelle vague arrivait, pouvoir à nouveau prendre des patients en réanimation. C'est vraiment ça qui est le critère. Et le 11 mai, oui, c'est encore 4 semaines, ça paraît pas aberrant par rapport à ce que font nos voisins européens.
Moi, je voulais vous poser...
Mais ça pourrait... Oui, Gilles.
Non, allez-y, Valérie. Oui.
Non. Moi, est-ce que ça pourrait être plus long, à votre avis, encore? On a vu que c'était un objectif.
Oui, c'est un objectif. Je pense qu'on va commencer à ouvrir à partir du 11 mai, sauf si le virus mutait, se révélait autre. Hein. On est avec ce virus qu'on ne connaît pas, tout peut arriver. Mais a priori, je pense que c'est effectivement assez raisonnable de penser ça. Mais je ne pense pas que toute la population va être déconfinée en même temps, effectivement, que ça sera progressif selon les régions, selon les fragilités de chacun. Enfin, je pense que ça va être effectivement progressif, mais que c'est le début, j'espère, de l'ouverture et de la reprise du travail. Et de la vie un petit peu.
Moi, je voulais vous poser une question sur une chose qu'on a rarement vue et qu'on découvre avec cette crise, c'est le bashing des médecins, des scientifiques qui étaient d'habitude respectés. On écoutait leurs paroles religieusement. Ça a été le cas de votre complice aussi, de Michel Simès. Est-ce qu'il parle trop? Est-ce qu'il se montre trop à la télé? Je parle à la fois de Michel Simès et des scientifiques, même si c'est deux questions différentes.
Mais ça, je vais sûrement pas commenter les prises de position de Michel. Très indélicat. Non, je crois que les médecins, dans leur hôpital, en tout cas, ils ont aucune raison d'être bâchés parce qu'ils bossent remarquablement. Après, on a besoin d'eux, hein, tous les cliniciens, les infectiologues, les réanimateurs, on a besoin d'eux en plateau pour nous expliquer, enfin en tout cas en Skype, pour nous expliquer la réalité de ce qu'ils vivent et donc de ce que nous vivons. Et je les remercie parce que franchement, prendre en ce moment de leur temps alors qu'ils sont sur le terrain et les mains dans le cambouis toute la journée, c'est vraiment remarquable. Donc on a absolument besoin d'eux. Donc ceux-là, je crois pas, enfin s'il y a du bashing, c'est de la mauvaise polémique. Après, ceux qui sont pas du tout dans les hôpitaux, qui viennent s'exprimer, mais s'ils n'ont pas de compétences, ils ne devraient pas le faire. S'ils en ont, qu'ils viennent le faire. Mais je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas se passer des médecins qui sont à l'hôpital, en tout cas, ça c'est sûr.
Mais pour revenir à ce que disait Gilles, c'est vrai qu'il y a une espèce d'agressivité, pour ne pas dire parfois de haine, envers des choses qui ont pu être dites au début. Moi, c'était plus sur la manière dont vous êtes journaliste, vous êtes médecin, vous exprimez. Comment est-ce qu'on fait pour... Parce que ce qu'on dit à l'instant T ne sera peut-être pas forcément...
Bien sûr.
Après, c'est toujours facile de refaire le match. Donc, il y a des gens qui vous en veulent, qui en veulent aux médecins d'avoir dit des choses. Donc, comment est-ce que vous le vivez, ça ?
Ben, difficilement, parce que c'est vrai qu'on fait au mieux et que vous avez tout à fait raison, l'information sur les connaissances sur ce virus changent du jour au lendemain, vraiment. Donc effectivement, la façon dont on a commencé à informer en février et la façon dont on informe aujourd'hui n'est pas la même parce qu'on n'avait pas les mêmes connaissances. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est trompé ? Je ne crois pas. On a dit ce qui était la réalité au mois de février, au mois de mars. Aujourd'hui, la réalité est autre. Donc on évolue aussi en fonction de ça. C'est un peu facile, effectivement, après coup. Vous savez, moi, j'ai été une des rares à défendre la ministre Roselyne Bachelot à l'époque de la grippe H1N1, parce que je trouve que c'est très facile de critiquer après en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a commandé, quel gâchis !» alors que ça n'était pas une épidémie épouvantable. Et ça en aurait été une, on aurait fait quoi ? Je trouve ça très confortable, honnêtement, d'être parmi ceux qui critiquent. Moi, je préfère être parmi ceux qui bossent.
Alors moi, j'avais une question aussi, Marina, sur ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier. Et je voulais savoir, est-ce que les choses que les personnes ont du mal à comprendre quand on regarde les réseaux sociaux, c'est de ne tester que ceux qui ont des symptômes, alors qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques et que c'est elles qui transmettent le virus. Est-ce que vous comprenez cette phrase ou est-ce qu'il y a une logique médicale ?
Oui, je comprends cette phrase parce qu'en fait, Monsieur Macron n'a pas détaillé ses tests. En fait, là, il parlait des tests virologiques, ce qu'on appelle les PCR, qui vont permettre chez des personnes qui ont des symptômes de savoir s'ils sont ou pas porteurs à l'instant où on les teste du virus, et s'ils sont porteurs, qu'ils soient isolés pour ne pas faire prendre de risques aux autres. Ce dont vous parlez, vous, je crois, ce sont les tests sérologiques, c'est-à-dire qu'on aimerait bien tous, une fois qu'on pourra sortir de ce confinement, savoir si on a été en contact avec le virus et si on est donc immunisé et protégé. Ce sont deux choses différentes et hier, le président Macron a essentiellement parlé des tests PCR, mais ça a entraîné une certaine confusion parce que ce sont deux choses complètement différentes. Oui, mais j'espère qu'on pourra tester largement la population avec des tests sérologiques, oui.
Mais est-ce qu'on va les avoir, ces tests ? C'est toujours la question. Et puis, il y a aussi toute cette question des masques, où le président a dit hier soir que tous les Français auront des masques, où là, il y a eu effectivement un changement de doctrine. Les masques, il faut le répéter, ne nous protègent pas, mais protègent ceux qui sont en face de nous. C'est bien ça.
Exactement, la population générale est protégée avec des masques type chirurgicaux ou des masques qui sont faits maison ou dans différentes usines aujourd'hui, qui sont des masques qui protègent les autres de vos éventuels postillons, éventuellement porteurs de virus. Ça c'est clair, c'est ceux-là effectivement qu'il faudra avoir pour effectivement éviter, si on jamais en est porteur et qu'on ne le sait pas, de contaminer d'autres gens et donc de réveiller cette épidémie. Ça effectivement, ces masques, ça sera intéressant de les avoir. A priori, moi, de ce que je sais, enfin de ce que j'ai lu, on en a commandé quand même suffisamment. On devrait en recevoir quand même énormément. J'espère que ça va arriver. Mais enfin, on en a commandé plusieurs centaines de millions, donc ça devrait arriver. Quant aux tests, les tests sérologiques, on en a plusieurs qui sont actuellement en cours d'évaluation, qui sont terminés. Simplement, on vérifie qu'ils sont parfaitement efficaces à 100%. Et à partir du moment où on les aura, ces tests, vu qu'on en a de plusieurs laboratoires, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas en avoir en masse. Mais pas le 11, pas le 11 mai, ils ne seront pas arrivés à ce moment-là, c'est sûr.
Le 11 mai, ils ne seront pas arrivés.
Non. Pas 60 millions, quoi.
J'ai eu pas mal de mes amis qui ont des enfants qui ne veulent pas envoyer leurs enfants le 11 mai à l'école. C'est-à-dire qu'on nous a dit que les enfants étaient porteurs sains, enfin porteurs sains, qu'ils pouvaient transmettre ce virus. Donc pourquoi est-ce qu'on... Les parents ont du mal à comprendre.
Oui, c'est vrai. Alors, d'après une très récente étude, il semble que les enfants soient un petit peu moins largement porteurs sains qu'on a bien voulu le penser. Ça compensait en gros que la moitié des enfants étaient des porteurs sains. En fait, il apparaît qu'il y en a beaucoup moins qui ont contracté le virus et qui donc le promènent comme ça sans symptômes. Bon, à part ça, je crois qu'il y a vraiment une volonté du gouvernement de lutter un peu contre les inégalités sociales avec des enfants qui sont complètement en perdition à partir du moment où ils ne sont pas à l'école pris en charge. C'est une volonté que je comprends très bien. J'ai entendu ce matin Monsieur Blanquer dire que il n'y aurait pas des classes de 40 élèves, c'est-à-dire qu'on va s'organiser autrement pour que ça soit des classes de petit nombre. Je ne sais pas comment, c'est à lui d'organiser, mais on retourne, si j'ai bien compris ce qu'il disait ce matin, on va pas retourner, les enfants vont pas retourner en classe pour des classes de 40 avec une cour remplie d'enfants et une cantine remplie d'enfants. Mais, donc je pense qu'il y a des précisions à faire.
Ouais, mais voilà, Marina, vous pensez pas que derrière tout ça, en fait, c'est un peu nos petits soldats qu'on envoie pour essayer d'avoir une immunité et qu'on prend les gens où on sait si qu'ils ne tomberont pas malades, mais le fait est de diffuser une immunité collective.
Mais je suis pas sûre, parce que si c'était ça, je pense que il y aurait beaucoup plus d'enfants aujourd'hui qui seraient déjà porteurs sains. Et apparemment, d'après cette récente étude, il semble pas qu'il y en ait tellement qui se contaminent. Donc je suis pas sûre que ça soit ça, honnêtement, qui soit vraiment la volonté derrière ça. Je sais pas, hein, je suis pas dans la tête de Monsieur Macron du tout, mais je ne suis pas sûre que ça soit ça.
Quelques mots quand même, revenons sur l'émission de ce soir.
Oui.
Je rappelle, hein, c'est vraiment un document.
On a une petite consultation, Valérie.
On a du mal quand on a un médecin, Marina. Vous savez, c'est quand on a un médecin, on a du mal à pas poser de questions. revenir sur le caractère quand même assez exceptionnel de ce reportage en immersion au plus près des malades et des soignants, et de voir effectivement comment chaque malade est pris en charge, pourquoi c'est si difficile à soigner. C'est vraiment toutes les questions qu'on ne se pose peut-être pas, justement, et qu'il faut montrer aux gens pour prendre conscience de la difficulté de la prise en charge 24 heures sur 24 pour sauver ces malades.
Oui, et ce qu'il y a de particulier, et qu'on verra ce soir, et que je ne suis pas sûre que tout le monde ait parfaitement bien compris, c'est que ce sont les patients en réanimation, donc qui sont intubés, ventilés, qui sont des patients graves, n'ont pas qu'un problème pulmonaire, ils ont un problème au niveau de différents organes, c'est ce que crée ce virus et c'est ce qu'on a appris, c'est-à-dire qu'ils ont non seulement une intubation, une ventilation, mais souvent une assistance au niveau des reins, parfois une assistance au niveau du cœur, et que donc il faut énormément de personnel par patient. Et c'est là où vraiment, quand les médecins passent leur temps à lancer des alertes en disant respectez le confinement, parce que le problème aujourd'hui, c'est les lits en réanimation et le personnel qui va avec. Et il faut non pas deux personnes pour s'occuper d'un patient quand il faut le retourner, mais il en faut six, ce qui est quand même, en plus vous avez entendu que beaucoup de patients sont obèses dans les réanimations, donc c'est vraiment un travail qui est fatigant et qui demande beaucoup de personnel. Et c'est bien là le problème, c'est que si on relâche actuellement le confinement, si on n'est pas rigoureux, eh bien il y aura trop de patients en réanimation et pas assez de personnel pour s'occuper d'eux. Donc c'est vraiment ça qu'on comprend avec ce genre de document, c'est effectivement que c'est une réanimation qui est tout à fait particulière et des patients qui sont très très lourds et pour les sauver, il faut vraiment énormément de bonne volonté et de personnel.
Et vous aurez un plateau
documentaire ? Oui, il y aura un plateau.
Vous serez en plateau, hein ?
Oui, il y aura deux spécialistes en plateau et puis des intervenants évidemment par Skype, dont des témoins qui étaient dans le document.
Le magazine, donc, c'est et puis on vous retrouve évidemment tous les jours dans le magazine de la santé. Un petit conseil de lecture, je sais que vous êtes passionné
Je suis pas sûre qu'il soit encore sorti, parce que je crois que je disais les épreuves. C'est le dernier Bernard Minier, La Vallée, qui est excellent. Oui. J'ai lu ce week-end et je me suis régalée.
Bon, vous êtes une grande lectrice, il faut le dire. Et vous avez vous aussi un livre qui doit sortir, mais j'imagine que les dates ne sont pas encore connues.
Il est reconnu en octobre.
Voilà. Merci Marina Carrère-Dancausse. Donc
merci
ce soir,
on
vous regarde le magazine de la santé spéciale coronavirus en immersion au CHU du Mans. Et je ne sais pas si la précédente émission spéciale que j'avais trouvée remarquable, vous avez un petit mot sur justement
sur toutes les questions
qu'on peut se poser et sur l'épidémie. C'était formidable. Donc à voir aussi en replay.
Et puis aussi, merci la petite vidéo qu'a fait Marina pour se laver les mains correctement.
J'ai
une vidéo qui est juste incroyable.
Merci beaucoup. Grâce à vous. Merci à vous. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec vous, Gilles, pour quelques petits conseils, quelques petites infos. Et puis, on va parler des oiseaux également, un petit peu de légèreté aujourd'hui. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Alors, quelques petites informations avec vous, Gilles, oui, avant de parler des oiseaux.
Des oiseaux, allez-y. Rapidement. Oui. Vous savez que la fondation de l'Armée du Salut lance ce qu'on appelle les free plugs. Alors, vous ne savez pas ce que c'est. En fait, ils demandent à des gens de laisser dépasser une rallonge électrique de votre fenêtre pour que les sans-abri puissent télécharger leur téléphone malgré le Covid-19. Donc, c'est un mouvement solidaire. Vous pouvez aller sur le site de la fondation de l'Armée du Salut ou sur leur Twitter et ils vous expliqueront toutes les modalités pour laisser une prise pour que les SDF puissent brancher leur téléphone et télécharger leur portable. Fermé depuis mi-mars en raison de l'épidémie de coronavirus, c'est Disneyland Paris. Et tous les Disneyland, vous savez, sont fermés. Alors, pour le coup, pour un lieu où il y a beaucoup de personnes, Disneyland se pose là. Et alors, ils ont créé Disneyland, lance Disneyland Paris à la maison, avec plein d'activités gratuites dans l'adresse que je mettrai sur le site de Sud Radio. Sur le site Facebook de Sud Radio, qui propose de retrouver toute l'ambiance festive du parc. Alors, il y a des coloriages, il y a des vidéos, il y a les recettes des restaurants de Disneyland, si vous voulez refaire les recettes du parc. Il y a aussi des vidéos pour apprendre les chorégraphies des chars, vous savez, lorsqu'il y a le défilé, pour ceux qui connaissent Disneyland.
Donc, arrêtez, les parents sont déjà au bord du craquage. Donc, voilà.
Il y a toute la magie du parc. Et alors, pour finir, quelque chose de formidable, prenez-vous pour Monet, Picasso, Kissaring. En fait, les grands peintres ont mis en place, enfin les héritiers des grands peintres, un accès libre sur Internet pour colorier évidemment les peintures de Monet, alors Kissaring avec ses petits personnages, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a plus de 71 coloriages de tableaux. Il y a le joueur de cartes de Cézanne, les paysannes bretonnes de Gauguin, la chute d'Icare de Matisse.
Et donc ça, on trouve ça où ?
Alors, il y a deux sites qui font ça. Il y a Dessine-moi une histoire, je mettrai aussi l'adresse sur Facebook, et le site supercoloring.com, où là, vous retrouvez des tableaux célèbres d'Andy Warhol, de Salvador Dali ou de Frida Kahlo. Je m'essayerai et puis je vous montrerai mes coloriages.
Si oui, vous montrerez vos coloriages. Surtout, vous ne débordez pas. Hein. Donc, voilà. Merci à vous, Gilles. On vous retrouve demain. Et on est en ligne avec Marjorie Poitvin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Vous êtes plus précisément responsable du programme Science participative et enquête grand public. Alors, j'ai vu passer quelque part cette information selon laquelle vous nous encouragez à aller dans nos jardins et à observer les oiseaux qui peut-être même réapparaissent de plus en plus en cette période de confinement. C'est cela ?
Oui, c'est cela. Donc moi, je suis animatrice de l'Observatoire des oiseaux des jardins. C'est un programme de science participative, comme vous avez dit, où on incite toute l'année les gens à observer les oiseaux qui viennent dans leur jardin. Et plus particulièrement en cette période de confinement, on a lancé un défi qui s'appelle « Confiner mais aux aguets ». Où on incite les gens qui ont un jardin ou un balcon à observer tous les jours pendant 10 minutes les oiseaux qui viennent se poser, qui viennent fréquenter cet espace et à nous faire part de leurs observations sur le site de l'Observatoire des oiseaux des jardins.
Alors, est-ce qu'il y a des espèces qu'on ne voyait pas et qu'on voit du fait du confinement ?
Alors c'est pas des espèces qui n'étaient pas là, mais c'est peut-être que les gens y faisaient moins attention. Sur les espèces qui sont observées depuis le début du confinement, il n'y a rien d'extraordinaire, on va dire. Les espèces les plus observées, ça reste le moineau domestique, la mésange charbonnière ou le merle noir. Mais on a beaucoup de données transmises par les gens parce que les gens sont chez eux et essayent tous les jours ou régulièrement d'observer des oiseaux qui viennent se poser. Ils sont peut-être plus attentifs à ce qui se passe dans leur jardin parce que ils sont chez eux, il y a moins d'activités à faire en cette période de confinement et du coup ils font plus attention à ces oiseaux qui viennent fréquenter leur jardin.
Alors moi j'en ai vu que je ne voyais pas avant, c'est pour ça que je vous ai posé la question. J'ai vu un rouge-gorge par exemple qui doit être là mais qu'on ne voyait peut-être pas avant. Donc peut-être que le fait qu'il y ait moins de monde dans les rues, ça les encourage à s'enhardir et à venir plus près des maisons.
Alors sur les rouges-gorges, il y a des espèces qui fréquentent couramment les jardins. Après, je pense que c'est vraiment que les gens ils font beaucoup plus attention puisque ils ont beaucoup moins de choses à faire en cette période. Puis on a eu de la chance, si on peut le dire. Il a fait beau pour les personnes qui ont un jardin, c'est de la chance. Il a fait beau ces dernières semaines. Donc les gens ont profiter de cette période pour aller dans leur jardin. Et surtout, les oiseaux sont en période de reproduction, sont en début de période de reproduction. Et donc, ils sont beaucoup plus bruyants en cette période. On les entend beaucoup plus. Et voilà. Et donc, peut-être que les gens s'aperçoivent qu'effectivement, alors, il y a moins de bruit dans les rues puisqu'il y a moins de voitures et moins de personnes. Et les oiseaux font plus de bruit parce qu'ils sont en période de reproduction.
En période de reproduction.
Voilà, pour attirer une partenaire.
Et quand on a un doute sur un oiseau, qu'on ne sait pas ce que c'est, comment on fait pour l'identifier?
Alors, le mieux, c'est de prendre une photo, tout simplement.
Ouais.
Actuellement, on a des moyens qui permettent de prendre très facilement des photos. Donc, c'est prendre une photo et l'envoyer à l'adresse de l'observatoire, ce qui est oiseaudesjardins@lpo.fr. Et
les personnes leur répondront. D'accord. Voilà. Et puis, vous avez mis sur votre site internet www.oiseaudesjardins.fr un patron pour confectionner un nichoir à oiseaux.
Oui, alors en cette période, on peut tout à fait confectionner un nichoir et installer un nichoir dans son jardin. Il faut savoir que l'une des causes principales de disparition des oiseaux qu'on appelle communs, qu'on peut voir dans nos jardins, c'est la disparition de leur habitat. Et donc des zones où ils peuvent nicher. Donc effectivement, on peut tout à fait en cette période construire un nichoir, l'installer dans son jardin. Ce sera majoritairement des espèces telles que les mésanges charbonnières ou les mésanges bleus qui vont pouvoir venir le fréquenter. Ou alors sur d'autres patrons de nichoirs, il y aura par exemple des rouges-queues qui vont aussi pouvoir venir facilement fréquenter ces nichoirs.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Marjorie Poitvin d'être intervenue ce matin, membre de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, le site internet, donc oiseaudesjardins.fr. Et puis, on peut toujours, vous l'avez dit, envoyer des photos si on a des questions, des interrogations autour des oiseaux et puis participer effectivement à ce programme que vous avez lancé. Merci à vous d'être intervenue ce matin sur Sud Radio. Tout autre chose, on est en ligne avec Jean-Rémy Girard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du SNALC, le syndicat national des lycées et des collèges. Je voulais avoir votre réaction sur l'annonce qui a été faite par le président de la République hier de reprendre les cours, de renvoyer les élèves le 11 mai à l'école.
Oui, alors nous, la réaction au SNALC, elle est très claire. C'est il va falloir se donner rendez-vous fin avril ou début mai pour faire le point sur la situation sanitaire et savoir si ce qui a été annoncé est possible, parce que ça implique énormément de contraintes, de difficultés. Par exemple, si on est dans une poursuite, comme c'est quand même annoncé, de la distanciation sociale, c'est quelque chose qu'il n'est pas possible de mettre en place dans les établissements scolaires, la distanciation sociale, à la fois pour cause du fait qu'on a des enfants et pour cause du fait que les établissements ne sont pas construits pour ça du tout. Les tailles des couloirs, enfin tout ça, il y a plein de problèmes. Donc on est déjà en train de voir que le ministre ce matin, Jean-Michel Blanquer, annonçait que ce ne serait pas tout le monde en même temps, qu'il n'y aurait pas de... Voilà. Ouais. Donc pour l'instant, je vous le dis, c'est extrêmement flou cette histoire de reprise de l'école. Nous, on voit pas très bien comment ça peut être fait, j'allais dire sous une forme réelle de l'école avec un E majuscule où on fait des cours à des élèves. Nous, on voit plutôt, la seule chose qui nous semble réellement possible, c'est la prolongation de ce qui a lieu actuellement, c'est-à-dire l'accueil d'enfants de personnel soignant qu'on pourra éventuellement étendre à d'autres catégories de personnes qui sont nécessaires à la reprise économique ou à des choses comme ça. Mais croire plutôt qu'on va d'un seul coup refaire cours et qu'on va faire cours à nos élèves normalement comme si rien ne s'était passé, ça c'est complètement utopique.
Ouais. C'est-à-dire qu'on voit ce matin, alors c'est pas nous on en reparlera à 11h, mais c'est vrai qu'on voit ce matin un certain nombre de ministres revenir ou préciser ou essayer d'impréciser, je ne sais pas si le mot est tout à fait correct, ce qu'a dit le président de la République, puisque Jean-Michel Blanquer ce matin dit la réouverture des écoles annoncée ne se fera pas du jour au lendemain, ce ne sera pas partout, ce ne sera pas obligatoire. Donc on est très loin de cette annonce hier assez péremptoire du président de la République qui a dit les enfants retourneront à l'école le 11 mai.
Oui, alors il a dit progressivement, et tout le problème est de savoir ce qu'on met dans cet adverbe, parce que c'est ça la grande difficulté. Ouais. Jean-Michel Blanquer, je pense qu'il est aussi maintenant devenu extrêmement prudent, parce que on a quand même connu un certain nombre d'annonces très assertives par le passé, mi-mars, etc., qui ont été contredites parfois dans la journée même. Donc, j'allais dire à un mois, à un mois de la possible réouverture des écoles, dire ça va se passer comme ci et ce sera comme ça, ça paraît impossible. Je ne pense pas que quiconque à l'éducation nationale soit en capacité de dire aujourd'hui, mais bien sûr, les cours vont s'organiser ainsi, les élèves vont venir selon tel roulement, etc. Personne n'en sait rien aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on discute.
Oui, pardon. Oui. Quelle était la situation dans les établissements scolaires, de ce que vous avez pu avoir comme remontée en amont de l'arrêt total des cours, c'est-à-dire on nous a dit qu'il n'y avait pas de gel, qu'il n'y avait pas de papier, qu'il n'y avait pas de savon dans les toilettes. Donc déjà, il n'y avait pas le minimum de ce qu'on recommandait. Est-ce qu'au retour, vous pensez... D'abord, est-ce que c'est vrai que c'était le cas dans une majorité d'établissements? Et est-ce qu'au retour, on va se retrouver dans la même situation?
C'était le cas dans un certain nombre d'écoles primaires et dans quelques collèges. C'était pas forcément la majorité des établissements en ce qui concerne le savon. En tous les cas, le gel, globalement, on en avait assez peu. Ouais. Ça, c'est très clair. Ouais. Mais là, la question, c'est pas juste le gel et le savon. C'est qu'à un moment, il va falloir une doctrine en ce qui concerne les masques.
Bien sûr.
Là, on est en
train
de parler.
Est-ce qu'on met des masques aux élèves?
Bah, et c'est ça. Et alors, est-ce que si on met des masques aux élèves, comment on fait avec les élèves de maternelle? Que globalement, on peut toujours leur apprendre à mettre un masque, mais ça va être compliqué. Ouais. Comment on fait pour les élèves, même aussi de collège et de lycée? Est-ce que véritablement, toute la journée, ils vont rester à un mètre de distance les uns des autres? À un moment, on peut avoir des doutes très très sérieux sur ça.
Ouais. Le ministre de l'Éducation, ce matin, a dit donc qu'il allait rencontrer les organisations syndicales. Donc, vous ferez partie de ces débats, de ces rencontres.
Oui.
Et il dit le premier critère, il est d'abord social. Il faut sauver les élèves qui pourraient partir à la dérive du fait du confinement. C'est les publics les plus fragiles que j'ai d'abord en tête. Ça vous semble une bonne chose?
Alors, le premier critère, on l'a quand même tous compris hier, il est économique. À un moment, autant le dire clairement. Je veux dire, c'est pas un gros mot, économie, non plus. C'est pas une insulte de dire qu'à un moment, il faut penser à l'économie. Mais le premier critère est économique. On est bien d'accord que si à un moment, on reprend beaucoup d'activités, il faut savoir ce qu'on fait des enfants. Et effectivement, habituellement, c'est l'école qui a la charge des enfants, alors pas juste pour faire garderie, mais normalement pour les instruire. Donc là, on est bien d'accord que c'est ça. Faut arrêter de dire qu'à un moment, là, pour le un mois et demi de cours qui reste, ça va être d'un seul coup un gouffre abominable, irrattrapable, etc. C'est quand même pas ça la priorité, mais pour nous, la priorité, elle n'est ni sociale, ni économique. La priorité, elle est sanitaire. C'est-à-dire que si les conditions ne sont pas réunies début mai pour que l'on puisse reprendre dans des conditions correctes, eh bien, nous, on dira que on ne reprend pas. Je rappelle que le premier mort français, c'était un enseignant.
Oui. C'est quoi des conditions sanitaires? Parce que vous l'évoquiez, c'est très difficile de sécuriser, entre guillemets, un établissement. Il faut mettre des masques aux élèves, il va falloir faire des classes en petits groupes. Quid de la cour de récréation? Enfin, c'est une organisation extrêmement complexe.
Mais c'est ça, c'est très très compliqué. Et puis qu'est-ce qu'on fait des élèves qu'on ne prend pas? Puisque si on fait des petits groupes, a priori, ça veut dire qu'on laisse quand même la moitié, deux tiers, trois quarts des élèves de l'établissement hors de l'établissement. Hein, parce que
donc qui va faire les cours? Qui va leur faire les cours?
A priori, les enseignants de l'établissement, mais pour ceux qui seront là, mais les autres, ils seront chez eux. Hein, dans ces cas-là, où est-ce qu'ils pourraient être sinon? Donc on ne voit pas, une fois encore, on ne voit pas très bien. Pour le moment, en tout cas, l'organisation globale de la chose. Et en termes de conditions sanitaires, évidemment, des groupes à effectifs réduits, c'est-à-dire actuellement, je rappelle que pour l'accueil des soignants, on a limité à 8 à 10 enfants le groupe. Hein, 8 à 10 enfants. Ouais. Vous transposez ça sur des classes de lycée à 35 élèves, vous voyez combien de groupes il faut faire pour une seule classe. C'est énorme.
On va manquer de profs du coup, non?
Bah, du coup, on va surtout manquer de, on va surtout manquer de salles, je dirais, avant de manquer de profs. Voilà, donc on n'est pas en mesure. Enfin, ce qu'il faut bien dire et ce qu'il faut qu'on comprenne tout de suite, c'est qu'on ne sera de toute façon pas en mesure de faire l'école normalement. Ça c'est un acquis, en fait. Ça, c'est sûr. On ne pourra pas faire l'école normalement. Et le ministre l'a dit, hein, clairement. Il a clairement dit, il faut pas d'affluence, etc. Donc, on ne fera pas école normalement. La question, c'est, mais alors, on fait quoi? Et on fait quoi avec qui? Voilà. Parce que, si c'est pour ne pas faire école, est-ce que dans ces cas-là, il faut pas plutôt continuer à dire, on assure l'accueil des enfants qui en ont absolument besoin? Des personnels qui travaillent, des personnes qui travaillent et dont le travail est indispensable à la société à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas plus, j'allais dire, sérieux et sage de faire ça?
Surtout qu'il reste un mois et demi avant les vacances scolaires. Donc ce mois-là était un mois en plus plutôt compliqué en termes d'ordinaire, quand les choses fonctionnaient bien, où il y avait des cours qui sautaient. Enfin, c'était plutôt allégé le mois de juin.
Oui, lycée, ça s'arrêtait plutôt à cause des examens. Donc, cette année, on n'a pas ce problème-là pour le coup. Mais enfin, très juste, hein, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'est l'année dernière, on a dû, je rappelle, repousser le brevet des collèges l'an dernier parce qu'il faisait 40 degrés dans les classes.
Dans les classes, on l'a oublié.
Et si on commence à devoir mettre des masques alors qu'on est en train de transpirer tout ce qu'on peut dans des salles exposées plein sud, je vous assure que ça va pas être faisable non plus. Donc il faut, à un moment, que les conditions de santé, de sécurité soient clairement mises sur la table.
Comment ça se passe l'enseignement à distance, les classes virtuelles, les retours que vous avez des enseignants?
Ça se passe de manière très diverse. Moi-même, j'en assure. Hein. Je pratique la classe virtuelle du CNED, comme beaucoup de mes collègues. On a perdu des élèves, très clairement. On a perdu des élèves. On en a perdu beaucoup plus en lycée professionnel qu'ailleurs. On ne sait pas quel est le suivi véritable, forcément toujours à la maison. On sait que des élèves sont dans des conditions qui ne permettent pas non plus d'assurer qu'ils puissent suivre efficacement ce que l'on fait. Nous, l'important, c'est de faire le moins mal possible et de garder le contact avec le maximum d'élèves possible pour leur dire qu'on est toujours là, qu'ils ont un souci, ils peuvent toujours nous contacter, qu'on est à leur écoute, qu'on est à leur disposition et qu'on va essayer de faire au mieux.
Oui, bon, que vous allez demander quoi au ministre? Vous le savez déjà, non, dans les rencontres que vous allez avoir avec lui, ce que vous nous avez dit plus ou moins, c'est-à-dire d'avoir l'assurance que les conditions sanitaires seront remplies?
Voilà, pour nous, c'était déjà la position du SNALC mi-mars, quand on a fermé les écoles et qu'on voulait réunir les personnels pour faire des réunions pédagogiques à 90 dans le self. On l'a dit, ça ne va peut-être pas être possible, non. Ça n'a pas changé, le SNAC n'a pas changé de position mi-avril et il ne changera pas de position mi-mai. La priorité, c'est la question de la santé et de la sécurité.
Et vous pensez que les autres syndicats sont sur le même pied que vous, sur le même plan que vous?
De ce que je vois, de ce que disent mes collègues syndicaux, je pense que le discours est assez globalement unanime.
Très bien. Merci infiniment d'être intervenu ce matin, Jean-Rémy Girard, donc président du SNALC, Syndicat national des lycées et des collèges. Dans un instant, on se retrouve avec Jean Dorido, docteur en psychologie que vous connaissez bien sur Sud Radio, hypnothérapeute, qui va nous donner peut-être quelques conseils pour mieux supporter ce mois qui nous arrive de confinement, ce mois supplémentaire. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous reviendrons sur le discours du président de la République hier. Ce que vous en avez pensé, 0826-300-300, vous pouvez d'ores et déjà réagir. Il a annoncé, vous l'avez évidemment tous entendu, que le confinement irait jusqu'au 11 mai. Nous sommes en ligne avec Jean Dorido. Bonjour Jean.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Docteur en psychologie, hypnothérapeute, vous avez publié « Le bonheur est une science exacte », ça vient de paraître chez Larousse, et vous êtes également le co-auteur, le co-créateur d'une application qui s'appelle Zenfi et qui peut être très utile en ces périodes de confinement pour aider à la méditation. Alors Jean Dorido, c'est vrai que certains ont dû se dire, en entendant cette date du 11 mai, que ça allait être très très difficile de tenir un mois de plus en famille, avec des enfants, en travaillant à domicile. Comment est-ce qu'on va faire?
Mais écoutez, oui, c'est toute la question. C'est vrai que le confinement, c'est une épreuve. Ça, je crois que c'est vraiment la première chose à rappeler. C'est vraiment de se souvenir que c'est vraiment d'ordinaire, c'est une épreuve qui est réservée à des personnes qui sont surentraînées. Le confinement, c'est réservé aux spationautes, c'est réservé aux sous-mariniers. Ce sont des personnes qui sont très, très entraînées pour vivre ces périodes qui, on le sait, sont psychologiquement extrêmement difficiles et éprouvantes. Vous faites allusion aux familles, c'est vrai que c'est dur pour les familles. Si vous voulez, ce qui est compliqué psychologiquement dans cette affaire, c'est que le confinement, c'est très très difficile pour tout le monde, simplement c'est difficile pour des raisons très différentes. Vous avez évoqué, Valérie, c'est vrai, les familles où chacun doit télétravailler, s'occuper des enfants, donc ça c'est très éprouvant en termes de charge mentale, et en même temps vous avez des seniors qui sont isolés chez eux, qui ne voient personne, et ça c'est ultra éprouvant psychologiquement pour une raison différente, c'est l'isolement. Et puis vous avez toutes ces personnes qui sont ultra sollicitées, à commencer par les soignants, et eux, la problématique qui les guette, c'est l'épuisement professionnel, le fameux burn-out. Donc si vous voulez, c'est vrai que c'est délicat de proposer une espèce de panacée universelle, parce que précisément, les douleurs psychiques réelles sont de causes très différentes dans cette histoire.
Comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre ensemble un mois de plus confiné? Alors effectivement, vous l'avez dit, les situations sont très différentes en fonction des situations. Selon, on a appris effectivement que le nombre de violences familiales était en augmentation. Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour, en particulier quand on est soit une personne seule, comment on fait? Parce que la solitude, vous l'avez dit également, est quelque chose de très très difficile à supporter. En confinement.
Alors oui, la solitude, c'est quelque chose de tragique. Si on tente de trouver vraiment un dénominateur commun qui est quelque chose d'utile, efficace pour tous, c'est effectivement la communication. C'est-à-dire qu'il faut parler au sein des familles, il faut oser se parler en se respectant. Les personnes qui sont seules doivent absolument faire chauffer leur téléphone pour appeler un voisin, un ami de la famille ou le numéro vert pour ne pas rester isolé. Et puis bien sûr, les personnes qui sont victimes ou témoins de violences intrafamiliales, là aussi composer les numéros qui sont prévus pour ça, parce que les services sociaux et les services même de police continuent de travailler, puisque bien sûr que les violences intrafamiliales, elles font des morts quasiment chaque jour, et c'est important de, je dirais, de continuer de rester vigilant et d'avoir cette audace d'appeler les personnes qui travaillent là-dessus pour ne pas rajouter du drame au drame.
Ouais, c'est pas toujours facile à faire quand on est et quand on est en couple et que ça se passe mal.
Écoutez, bon, si
il paraît qu'en s'autoriser... Chine, les divorces ont augmenté.
Oui, alors bon, si les personnes pour qui c'est possible, elles peuvent commencer à compter les jours, parce que là, le 11 mai, ça donne quand même une issue. Maintenant, bien sûr, se souvenir que le dialogue, c'est vraiment c'est la règle d'or. Maintenant, vous l'avez dit, Valérie, c'est tout le problème de ces conseils que l'on peut donner, c'est que c'est comme toujours, c'est très très facile à dire, c'est beaucoup plus délicat à mettre en œuvre. Les conseils vraiment de base, évidemment éviter la prise de toxiques, l'alcool, on sait que ça va favoriser le passage à l'acte, donc de rester très vigilant sur la consommation d'alcool, faire de l'exercice tous les jours, il y a des initiatives extraordinaires qui sont prises, on peut accéder à des séances de sport, c'est offert, c'est comme Zenfi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est des choses aujourd'hui qui sont accessibles sans dépenser le moindre centime d'euro, donc faire du sport tous les jours, même 10 minutes, même de façon très très modeste, c'est mieux que zéro, du sport, pas de toxique, se souvenir de communiquer et encore une fois réussir à trouver du soutien social, appeler un copain, une copine, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, passer un moment au téléphone avec cette personne, écouter la radio, s'autoriser, on est nombreux parfois, on a envie d'appeler une radio, on n'ose pas, aujourd'hui, vous
ouvrez l'antenne, appelez-nous 0826 300 300 si vous voulez poser une question à Jean de Rideau, témoigner, nous dire effectivement comment vous vous sentez, parce que c'est vrai que c'est très très compliqué quand on est confiné dans un appartement et qu'on a soit pas de visite, soit qu'on est confiné avec un mari, une femme qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de voir aussi longtemps. C'est là où il faut effectivement essayer de s'évader différemment.
Exactement. Et puis bon, si on s'autorise à rester un peu positif, ça peut aussi être l'occasion de se redécouvrir. Et dans le nombre, c'est une question de nombre, tout ça, dans le nombre, il y aura aussi certainement des couples qui vont réapprendre à se rencontrer et qui finalement vont sortir grandis de cette épreuve. Encore une fois, c'est ce qui est compliqué, c'est de tirer des grandes généralités parce qu'il y a des situations qui sont très très différentes les unes des autres. On ne peut que souhaiter au plus grand nombre de se respecter, encore une fois, ne pas se placer la barre trop haut, parce que c'est vraiment une épreuve inouïe, ce confinement. Les études qui ont été faites sur le sujet à l'époque d'Ebola ou à l'époque du SRAS montrent que c'est très très éprouvant psychologiquement. Donc vraiment, la règle d'or, c'est de vous respecter, de ne pas vous placer la barre trop haut. Chacun fait de son mieux dans cette histoire, et c'est comme ça qu'on réussira à s'en sortir.
Ça, c'est la théorie, j'ai envie de dire. Après, les émotions humaines, j'ai envie de dire, prennent souvent le dessus, la violence, l'agacement. Donc, c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que la théorie, elle est toujours facile. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il y a d'autres conseils concrets? C'est-à-dire de s'isoler peut-être dans une pièce, quand on sent qu'on va craquer, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, merci de m'aider à préciser, Valérie. Vous avez raison. Ne pas se passer la barre trop haut, ça veut dire s'autoriser à être traversé par des émotions, ne pas lutter contre ces émotions. Et effectivement, vous avez raison de le préciser de façon très pratico-pratique, c'est s'autoriser à s'isoler, c'est s'autoriser à prendre de l'air, même dans un environnement qui est petit, s'autoriser à dire à l'autre, écoute, laisse-moi tranquille s'il te plaît, voilà, je suis pas disponible pour le moment. La base, bien sûr, c'est le souffle. Hein, souvenez-vous de respirer. Sous stress, on régresse, donc c'est vrai qu'on a tendance à basculer dans des émotions beaucoup plus primitives, vous l'avez dit, c'est vrai, la violence, la colère, et sous stress, on a tendance à être en apnée aussi, on ne respire pas, et ça aggrave encore les émotions négatives. Donc souvenez-vous de respirer, de vous étirer physiquement, et de vraiment, quand on dit « laisse-moi souffler un peu », c'est pas par hasard, c'est de la psychologie intuitive, on a besoin d'air, ce qui bien sûr est précisément compliqué en période de confinement. Donc ouvrez les fenêtres,
donc un petit truc. Oui, un petit truc de respiration, on inspire, on garde la respiration et on relâche, on garde la... C'est ça ?
Oui, ben, le simple fait de respirer, c'est-à-dire de ne faire que ça, c'est autorisé, là, je fais une pause et je vais me prendre trois grandes respirations profondes. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche, je fais que ça et rien d'autre. Hein, même pas besoin de compter quoi que ce soit, juste trois bonnes respirations, j'inspire... Je souffle, de faire ça trois fois de suite, c'est étonnamment puissant et efficace, alors que c'est extrêmement simple. Encore faut-il y penser, et puis réussir à s'autoriser, parce que vous l'avez dit, quand on doit télétravailler, s'occuper des enfants, être sollicité de toutes parts, eh bien on peut se retrouver à être en apnée toute la journée, c'est vrai.
Alors, il y a eu beaucoup de divorces à Wuhan, mais il y a eu aussi beaucoup de mariages, paraît-il.
Ça fait une note
positive. Après le déconfinement, voilà, ça fait une note positive. Voilà. Brigitte nous dit, j'ai fait une journée pyjama hier, c'est grave.
Écoutez, c'est pas trop grave, à condition que ça ne se reproduise pas trop souvent. C'est pas très bon pour la tête, la journée pyjama. Maintenant, bon, c'est Brigitte.
Il faut s'habiller, il faut... Non, c'est pas Brigitte Lahaye, c'est une Brigitte
auditrice. Ah ben Brigitte, à ce moment-là, il faut dire à Brigitte, pas trop souvent la journée pyjama, parce que ça, c'est pas bon pour le moral. On pourrait même dire que c'est assez mauvais. Donc non, ça, c'est vraiment aussi une règle d'or. Garder son rythme, vraiment, se lever à heure fixe.
Se mettre des rythmes.
Se mettre des rythmes, faire comme si on était dans la vie, je dirais, normale et habituelle, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose qui maintient vraiment en bon état de marche psychologique, hein, vraiment.
Bon, et puis fabriquer des masques, prenez des tutos et essayez de fabriquer des masques, ça va vous occuper les mains et l'esprit, et comme ça vous aurez des masques puisqu'on n'en a toujours pas. Merci à vous Jean Dorido d'être intervenu ce matin, donc je rappelle votre livre « Le bonheur est une science exacte » chez Larousse et également l'application Zenfi. Merci à vous Jean, portez-vous
merci
bien, et puis on se retrouve nous dans quelques instants pour commenter l'intervention du président de la République, 0826 300 300, on vous attend, à tout de suite sur Sud Radio.